Quant au verset 5, il nous parle de la bonté de Dieu, son amour envers les hommes, sont apparus. Jéhovah, non, sur le principe d'œuvre accomplie en justice que nous, nous eussions faite. On voit que l'Esprit de Dieu met tout de suite de côté, on peut appeler le principe religieux. Vous pouvez prendre toutes les religions du monde, elles sont sur ce principe-là. C'est faire pour être. Et toutes les religions, l'islam aussi, toutes les religions, c'est faire pour être. C'est-à-dire, c'est une démarche pour essayer de se hisser vers Dieu de la terre. Et ne pensons pas que nous avons une autre religion. Nous n'avons pas une autre religion. Nous avons, je dirais, l'anti-religion. Au lieu que ce soit l'homme qui essaye de se hisser par ses œuvres vers le ciel, vers Dieu, et qui fait pour être, le christianisme, c'est pas nous qui montons, c'est le Seigneur qui est descendu jusqu'à nous. C'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait, en se révélant dans la personne du Seigneur Jésus. Donc c'est pas une religion au milieu d'autres qui soit meilleure qu'une autre, non. Le principe religieux, c'est de donner la responsabilité. Alors, le Seigneur le définit par rapport au docteur de la loi, c'est Jean 10, avant la parabole du bon samaritain. Fais ces choses et tu vivras. Ça, c'est le principe religieux. Cet homme l'avait interrogé sur un principe religieux. Bah, si tu veux qu'on soit sur le principe religieux, allons-y. Fais ces choses et tu vivras. C'est le principe aussi de la loi mosaïque. Fais ces choses et tu vivras. Mais nous, nous ne sommes pas sur ce principe-là. C'est non pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers nous dans la personne de notre Seigneur Jésus. Et ce que nous ne pouvions pas faire, c'est lui qui l'a fait en mourant sur la croix. Et nous ne faisons pas pour être, selon le principe religieux, mais nous faisons parce que nous sommes. L'œuvre, elle n'est pas le but. Mais l'œuvre, elle est avant les œuvres. Elle est à cause de notre justification. Non pas pour être justifiés, mais parce que nous sommes justifiés, alors nous agissons dans ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous.
Un petit mot sur cette bonté et disons le verset 4 et quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes. Dans le chapitre 2, on trouve la grâce de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans le chapitre 2. Chapitre 2. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. La manifestation de la bonté de Dieu, nous l'avons dans le fait qu'il nous a donné son Fils. C'est quelque chose d'objectif. Elle est apparue à tous les hommes. Tous les hommes. Et c'est dans 2 Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 2, nous pouvons lire verset 4, notre Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. C'est là sa volonté et sa bonté est apparue. Il n'y a rien de plus... On a chanté cet après-midi, c'est « Élouer ta bonté qui demeure à toujours ». Cette bonté, elle nous a été manifestée dans le don du Seigneur Jésus. Il a démontré. Dieu constate son amour envers nous. Il ne peut pas y en avoir de plus grand. On se rappelle ce que David pouvait dire de Mephibosheth. Il dit, j'userai envers lui d'une bonté de Dieu. Mephibosheth n'avait aucun droit à être là. Il était, et on va dire, il considérait David comme un ennemi. Et David le cherchait. La deuxième chose, c'est qu'il était boiteux des deux pieds. Et quand on lit 2 Samuel 2, David avait dit, les boiteux et les aveugles n'entreront pas dans sa cité à Jérusalem. Mephibosheth n'a pas fait que rentrer à Jérusalem jusqu'à la table de David, un lieu de communion. Voilà ce que cette bonté a fait pour nous. Nous étions loin, nous avons été approchés très, très, très près. Et elle est apparue à tous les hommes, mais ça ne veut pas dire, ça veut dire, elle est à l'intention de tous les hommes. Mais elle ne veut pas dire que tous les hommes ont bénéfice de cela. Et elle est apparue parce que nous avons besoin de ce salut. Et c'est le seul moyen qu'il y a de nous approcher de lui. Tous les hommes ont besoin de ce salut. Elle est apparue à tous les hommes. Mais seuls ceux qui l'acceptent ont bénéfice de cela.
On a mentionné tout à l'heure que, contrairement aux principes religieux, nous faisons parce que nous sommes. Ça fait écho à ce qui est mentionné ici, en particulier dans une note sur un terme du verset 5. Nous relisons le verset 5. Il est dit, après la négation du principe religieux, pour bien mettre les choses au clair comme on l'a entendu, non sur le principe d'œuvre accomplie en justice que nous eussions faite, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération. On arrête là pour l'instant, volontairement. Et il y a une note qui dit, c'est un changement de position, un état de choses nouveau, le lavage de la régénération. Et ça nous évoque ce que le Seigneur Jésus dit à Pierre dans Jean 13, lorsque, après le fait que le Seigneur Jésus dit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Et Pierre dit, alors, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête, pardon. Et le Seigneur lui dit, celui qui a le corps tout entier lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est entièrement pur. Et ça, c'est l'œuvre merveilleuse accomplie par notre Seigneur Jésus à la croix, que nous avons été lavés entièrement de nos péchés. Et plus que cela, placé dans un état de choses complètement nouveau. D'une part, nous avons eu nos péchés effacés, chacun de nos péchés expiés par les souffrances de Christ sur la croix, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, mais aussi le principe du péché qui est en nous, la chair, qui nous rend aussi totalement impropres à la présence de Dieu, en ce que nous sommes par nature. Cela aussi a été réglé. Parce que Dieu nous voit aussi dans la mort de la croix, comme cette fois-ci mort avec Christ, en ce que nous étions dans la nature est maintenant considéré comme mort. Et alors nous trouvons dans l'Épître aux Romains cette merveilleuse expression, celui qui est mort et tous devant Dieu et pour Dieu, nous sommes morts à cette ancienne vie et à la chair et à la nature. Celui qui est mort est justifié du péché. Quel merveilleux changement de position globale qui nous donne une pleine et entière liberté, un plein et entier accès dans la présence de Dieu. Parce que la croix, sur le plan des péchés, comme sur le plan du péché, la croix de Christ a tout réglé une fois pour toutes. Certainement beaucoup de choses à dire sur ce point, mais je voulais juste évoquer cette merveilleuse position qui nous a été donnée devant Dieu et qui n'est en rien de nous, mais en tout le résultat de l'œuvre de la croix. Et alors nous avons ce deuxième aspect qui est, nous faisons parce que nous sommes dans cette nouvelle position entièrement sur la base de la grâce souveraine de Dieu. Alors nous trouvons aussi, et ça fait peut-être écho à cela, la suite qui nous dit, et le renouvellement de l'Esprit Saint qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons été placés dans une position complètement nouvelle. Nous avons aussi reçu par cette œuvre de la croix et par la foi une vie nouvelle. Mais toujours, nous devons nous rappeler, et nous en faisons l'expérience, que la puissance de cette vie nouvelle, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui a été envoyé. Le salut est descendu vers nous, nous a donné une vie nouvelle, et le Saint-Esprit est descendu vers nous et en nous pour donner puissance à cette vie nouvelle, et pour que nous puissions, par son esprit, par ce renouvellement dont parle Romains 12 ou Éphésiens aussi, renouvellement du Saint-Esprit, que nous puissions discerner en effet ses œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles.
Le mot miséricorde est formé de deux mots, misère et corde cœur. C'est le cœur de notre Dieu sur notre misère. Cette misère qui a été déclinée juste avant dans les versets précédents. Le cœur de Dieu par rapport à notre misère. Et notre Dieu nous a aimés après nous avoir dit ce que nous étions. Nous pouvons aimer quelqu'un et puis au bout d'un moment on se dit, il n'était pas ce que je pensais. Et alors notre amour peut en prendre un coup, comme on dit. Mais là, Dieu nous a aimés en connaissance de cause. Connaissant pleinement notre misère, il a eu un cœur pour notre misère. Alors le lavage, on pense aussi à ce verset que nous avons dans l'Apocalypse, au chapitre 1, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui nous a fait un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une amélioration de notre nature. Ce n'est pas une transformation. C'est quelque chose de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes sont faites nouvelles. Et une régénération, c'est une nouvelle naissance. C'est un nouveau début sur des nouvelles bases. Ce n'est pas un rafistolage de l'homme en essayant de l'améliorer. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et alors, le renouvellement de l'esprit, c'est quelque chose qui est unique. Tout enfant de Dieu, eh bien, il est scellé du Saint-Esprit. Il y a trois choses quant au Saint-Esprit. Il y a l'onction, il y a le sceau et il y a les arts. On trouve ces trois choses dans la deuxième aux Corinthiens, au verset du premier chapitre, verset 21. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est l'onction, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés, c'est le sceau, et qui nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. Alors, l'onction, c'est quelque chose qui pouvait exister déjà dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit qui descend sur un homme, il est même descendu sur Saül. L'Esprit de Dieu l'a saisi. L'onction, c'est donc quelque chose, je dirais, ponctuel. Tandis que le sceau du Saint-Esprit, on peut dire que c'est la signature de Dieu sur son œuvre. Vous avez souvent pris cet exemple, un certain Boulle, Riesener, qui était ébéniste du roi, eh bien, quand il avait fini un beau meuble destiné à la royauté, il le signait Boulle et il mettait sa signature. J'ai souvent pris cet exemple aussi, que je vais peut-être redonner. Il y a eu une publicité d'un poêlier alsacien qui avait mis sa publicité. Il y avait le patron avec costume cravate. Et puis il disait, je signe tous les poêles qui sortent de mon entreprise, donc je ne peux pas fabriquer n'importe quoi. Lire la signature de Dieu, c'est bien le sceau que Dieu appose. Un sceau, aujourd'hui on peut dire c'est une signature, un sceau c'était dans la cire, mais aujourd'hui c'est une signature. Dieu signe son œuvre, il dit ça c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai mis cette vie nouvelle en un tel. Et alors les arts, pour être très court, ce serait tout un sujet. Les arts, vous savez comment ça se passe. Peut-être d'ici quelques mois, vous voudriez peut-être louer quelque chose pour les vacances. Et alors à ce moment-là, vous allez prendre contact avec un propriétaire. Et puis le propriétaire, il va dire oui, ben, d'accord, vous arrivez le 10 août, vous arrivez dans mon logement, pas de problème. Je voudrais que vous m'envoyiez des arts. Parce que, bon, vous me dites ça si vous changez d'avis, et moi, je vous réserve la semaine, et puis vous n'allez pas venir. Hein. Donc, il veut des arts. C'est-à-dire, c'est un engagement. Est-ce que c'est nous qui nous sommes engagés? Certainement pas, c'est Dieu qui s'est engagé. Dieu s'est engagé, il nous a versé des arts, les arts de l'esprit, pas une partie de l'esprit, c'est l'esprit lui-même qui constitue ces arts. Les arts de notre héritage. C'est-à-dire, déjà maintenant, nous pouvons jouir de cet héritage, par le Saint-Esprit qui nous avait été donné. Contrairement à mon locataire, il a versé peut-être les arts, mais il ne jouit pas encore des choses, mais nous en jouissons déjà. Parce que le Saint-Esprit nous rend présent de ces choses. Et Dieu s'est engagé dans ces choses. Par les arts, il a versé des arts, le Saint-Esprit, pour nous rendre ces choses présentes. Et c'est toi. Et le renouvellement de l'Esprit-Saint qu'il a répandu richement sur nous, quel aspect? Est-ce que c'est plutôt le sceau? Est-ce que c'est plutôt les arts? C'est peut-être un petit peu les deux. L'onction, en tout cas, c'est quelque chose qui existait dans l'Ancien Testament, qui existe encore dans le Nouveau. Soyez remplis du Saint-Esprit. Étienne, un homme rempli, plein de l'Esprit. Ça, c'est l'onction. Et si le sceau, nous l'avons, à partir du moment où Dieu a signé son œuvre en moi lorsque j'ai été racheté, si les arts, je les ai parce que l'héritage m'est absolument assuré par le Saint-Esprit, quant à l'onction, à nous d'être exercés, pour que, comme le psaume 84 nous le dit, bienheureux l'homme dont la force est en toi et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Un chemin frayé du Saint-Esprit vers nous pour nous communiquer la grâce, que ce soit bien le Saint-Esprit qui puisse être toujours plus libre en nous pour que nous manifestions quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va manifester en nous dans cette onction? C'est évident, il va manifester Christ.
Nous lisons donc fin du verset 5. Le renouvellement de l'Esprit Saint, il a répandu richement sur nous. Est-ce que nous sommes conscients que l'Esprit Saint, il l'a répandu richement sur nous? Est-ce que nous pourrions dire oui, j'ai reçu richement l'Esprit Saint? Oui, mais comme cela vient d'être dit, est-ce que je lui laisse la place? Est-ce que je laisse la place à l'Esprit-Saint pour s'exprimer? Nous nous plaignons souvent de notre faiblesse. Nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Nous sommes faibles. Mais c'est une bonne chose de réaliser déjà cela. Oui, nous sommes faibles par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous avons l'Esprit en nous. Est-ce que l'Esprit-Saint que nous avons maintenant en nous, est-ce qu'il est moins puissant il y a 2000 ans, il y a 6000 ans, par rapport aux croyants de l'Ancien Testament, nous, l'Esprit Saint habite en nous. Quelle faveur, l'Esprit Saint est en nous. Et Dieu veut les répandre richement, mais quelle est la place que je laisse à l'Esprit Saint? Est-ce que je n'y mets pas trop du mien? Que ce soit que je veux faire des choses pour le Seigneur, mais je ne le fais pas vraiment avec l'Esprit Saint. Ou alors je me dis, je ne saurais pas le faire, j'ai pas la force. Est-ce que nous n'agissons pas souvent comme cela? Et je le dis d'abord pour moi. Et pourtant, nous avons en nous l'Esprit Saint, qui est la puissance de Dieu. C'est une personne divine qui est en nous. C'est une lumière, c'est un guide et c'est une puissance. Alors lorsque nous sentons effectivement notre faiblesse, c'est une bonne chose, mais continuons et venons au Seigneur, venons à Dieu pour qu'il nous remplisse réellement de l'Esprit, pour que nous puissions agir par l'Esprit. Et alors il nous donnera les forces que nous aurons besoin. Il ne nous donnera pas les forces pour dans 2 jours ou 3 jours, il nous donnera les forces pour aujourd'hui. Mais que nous puissions chacun avoir ce désir, que l'Esprit Saint puisse toujours plus, toujours mieux agir en nous. Et alors nous pourrons faire de grandes choses.
Dans le prophète Agé, où le peuple avait commencé à reconstruire le temple et s'était découragé, l'ennemi était là, occupé de leurs propres affaires. Il y a Agé et Zacharie qui ont été envoyés. Ce qui est remarquable, c'est que dans le prophète Agé, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est que même si les choses que vous faites vous paraissent petites, il y a quelque chose qui reste et qui demeure. Chapitre 2, verset 5. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortiez d'Égypte. Parole du commencement. On a toujours la parole de Dieu entre les mains. Et puis, et mon esprit demeure au milieu de vous. On vient de le voir dans Tite, l'esprit en nous, nous renouvelant, nous fortifiant, nous encourageant. Aussi, il écrit, ne craignez pas, on peut commencer à se mettre au travail, ou continuer plutôt à se mettre au travail, continuer à travailler à l'œuvre, aux œuvres que le Seigneur a préparées, pour nous, pour la bénédiction du peuple de Dieu, pour le salut des âmes, pour notre propre joie à servir le Maître.
Juste une petite précision dans ce que nous avons ici dans ce renouvellement de l'esprit. Et c'est ça qui est vraiment heureux et qui nous donne de la confiance et une sérénité. C'est une transformation intérieure. L'œuvre de l'esprit, une transformation intérieure qui nous conduira à une ressemblance de la personne du Seigneur lui-même. Que nos affections soient portées vers ce qu'il aime, que nos intérêts soient portés vers ce qui est ses intérêts. Et ça, c'est lui qui, c'est pas nous, c'est lui qui le fait. Et on peut laisser l'environnement de côté, mais ce qui me concerne, moi, intérieurement, le but de l'esprit, c'est de me transformer à la ressemblance du Seigneur. Que mes affections soient ce qui sont ses affections, mes intérêts, ses intérêts. Alors,
on voit de nouveau entre l'œuvre du Seigneur et notre vie pratique de nouveau cette corrélation. Être les premiers dans les œuvres, pourquoi? Parce qu'on a été rendu juste, parce que nous avons cette vie éternelle. Bien sûr, nous avons été sauvés en espérance, Romains 8 nous dit cela. Mais nous avons cette vie éternelle et nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Eh bien, ces choses... Bien sûr, on peut simplement s'en nourrir intellectuellement ou même dans des échanges comme ça, mais tout de suite après, il nous est dit, cette parole est certaine, je veux que tu insistes sur ces choses afin que ceux qui ont cru Dieu s'impliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Donc il y a toujours une conséquence. Tous nos privilèges comportent toujours aussi une responsabilité. Dieu ne nous donne pas un privilège sans qu'il soit attaché une responsabilité. Et c'est, nous revenons au sujet qui nous a déjà occupés, il y a ce que nous savons, dans quelle mesure ces choses impactent notre vie pratique, dans quelle mesure le fait de savoir que je suis rendu juste, dans quelle mesure le fait de savoir que j'ai la vie éternelle, dans quelle mesure savoir que je suis héritier, il nous a tout donné en Christ, et toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, toutes. Il n'y a pas, viens, on va leur donner une partie, dans tout, on a tout, tout. Eh bien, est-ce que ces choses ont une conséquence dans ma vie? Ou bien est-ce que je m'en nourris un peu intellectuellement? Est-ce qu'on en parle simplement derrière un micro? Non, il faut que tu insistes là-dessus pour qu'il y ait des bonnes œuvres qui soient la conséquence de cela. Bien aimé, nous arrivons de nouveau au même sujet. Dans quelle mesure ces choses impactent notre vie pratique?
Pour préciser, enfin, pour poursuivre ce que vient de dire Benjamin, mais c'était frappé aussi en lisant cela, finalement, je veux que tu insistes sur ces choses. Et en fait, c'est pas tant insiste pour leur dire de faire des bonnes œuvres. L'insistance, elle est mise, cette parole est certaine, et je veux que tu insistes sur ces choses. Il semble bien que ça fait référence plutôt au paragraphe qui précède, à ces choses qui viennent d'être dites. Et finalement, parler de ces sujets qui sont vraiment ces fondements de la vie chrétienne et de la foi chrétienne, le fait que nous sommes une nouvelle création, toutes choses sont nouvelles, le fait que l'Esprit Saint habite en nous, le fait qu'on est héritier de la vie éternelle, qu'on a cette espérance qui est devant nous, ces grandes choses qui remplissent nos cœurs, eh bien, insiste sur ces choses, n'aie pas peur d'en reparler, peut-être on dit dans des fois l'impression... On revient souvent, on le sait qu'on est sauvé, on sait qu'on va aller au ciel, on sait qu'on a le Saint-Esprit, mais finalement, eh bien, la parole est là pour dire... C'est normal d'y revenir souvent. C'est normal d'insister sur ces choses fondamentales de la foi chrétienne. Et c'est quand vous serez, ces choses-là, elles vont tellement remplir votre cœur qu'alors naturellement, je ne fais que redire ce que Benjamin a dit, c'est ça qui va entraîner que maintenant, ça va changer vos vies. Il va y avoir des conséquences, ça va se voir. De certaines façons, si ces choses-là remplisse vos vies, vos cœurs, eh bien, ça ne pourra pas en rester là. Ça ne pourra pas ne pas avoir de fruits. Ça aura naturellement des conséquences. Et alors, justement, dans les œuvres que vous allez faire, parce que ces choses-là, fondamentales, elles remplissent vos cœurs.
Juste deux versets qui nous montrent des exemples que ceux qui ont cru Dieu se sont appliqués à faire ces bonnes œuvres. Premièrement, en 2 Corinthiens 5, ce qui nous est dit au verset 15, on va lire depuis le verset 4, « Car l'amour du Christ nous étreint en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. » Et ensuite, dans la première épître aux Thessaloniciens, c'est une éloge qui est reçue par les Thessaloniciens. C'est au premier chapitre, verset 8. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu. Votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Quel exemple pour nous de ceux qui ont été des premiers à faire des bonnes œuvres. Rappelez aussi, un frère l'a évoqué, je crois que c'était aujourd'hui, les bonnes œuvres, ce que c'est des œuvres qui sont faites au nom de Christ. On l'a rappelé en acte 4, les versets 9 et 10, on va les relire. Acte 4, versets 9 et 10. Si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, sachez vous tous et tout le peuple d'Israël que ça a été par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen. Une bonne œuvre alors est faite au nom du Seigneur Jésus. Aussi, on l'a rappelé tout à l'heure, en Marc 14, quand ce vase d'albâtre est brisé, une bonne œuvre est faite envers Christ. Ensuite, il y a en acte 9 aussi, une sœur dont le nom voulait dire gazelle, elle était nommée Tabitha, verset 36. Elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, une bonne œuvre, elle est faite envers tous. Et encore une autre, pour les saints, alors là, c'est en Galates. Chapitre 6, verset 9, « Or, ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas. Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. » Quatre régions, quatre sphères dans lesquelles les bonnes œuvres peuvent se faire ou se voir que vraiment c'est une bonne œuvre et qualifiée par Dieu, par sa parole, comme étant une bonne œuvre.
puisse revenir sur cette question de l'œuvre. Nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés. Ça, cela a été dit. C'est la conséquence. Mais pourquoi les œuvres sont importantes? Quand nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 2, la foi sans les œuvres est une foi morte. Dieu sait que nous avons la foi, mais elle n'est pas visible au monde. Ce que le monde voit, c'est la manière dont nous marchons. Et notre comportement, est-ce que nous marchons comme des enfants de Dieu? Voilà l'œuvre. Et si nous sommes croyants, on va lire Jacques. On va lire à partir du verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Voilà. C'est-à-dire, la manière de ce que je fais témoigne que je suis. Mais si je dis j'ai la foi, et puis, quoi ça? Bon, voilà. Dans le même temps, si nous lisons ce qui a été dit à l'Assemblée à Éphèse, elle faisait des œuvres. Où est la foi? Quand nous lisons maintenant 1 Thessaloniciens, on va lire ce passage de 1 Thessaloniciens. Quand l'apôtre leur dit, nous souvenons, verset 3, nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi. La foi était là, elle était matérialisée par ce qui était leur marche, voilà, votre œuvre de foi. Et quand l'apôtre vient dire maintenant, vient nous dire ici, au verset 8, ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bons, c'est-à-dire le montrer que nous avons cru Dieu. Que notre vie démontre cela, que nous marchons selon la manière dont Dieu désire que nous marchons. Voilà. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais de porter honneur à celui à qui nous avons été amenés quant à ce qui concerne notre marche. Et ça rappelle ce que Pierre pouvait dire à, on va peut-être lire ce passage dans 1 Pierre 2. Il leur dit à partir du verset 9, mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Que ce que nous sommes montre les vertus du Seigneur Jésus.
Juste une pensée aussi pour... parce que des fois, on peut se poser des questions par rapport aux bonnes œuvres, puisqu'on voit aussi dans nos entourages des personnes qui ne sont pas converties, qui font du bien autour de nous. Donc peut-être qu'ici, on voit dans l'Épître à Tite, donc on a mentionné plusieurs fois où il fait mention de ces bonnes œuvres. Et on a rappelé que c'était, en tant que nouvelle création, on est créé pour les bonnes œuvres et que c'est Dieu qui les prépare à l'avance. Et dans la parole, il fait aussi mention de mauvaises œuvres et il fait mention aussi d'œuvres mortes. Et c'était juste pour les citer. Dans Colossiens au chapitre 1, au verset 21, il fait mention des mauvaises œuvres. Il dit, Colossiens 1, 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres. Et il vous a toutefois maintenant réconcilié dans le corps de sa chair, par la mort. Tout à fait. Dans 2 Timothée 4, verset 18 ou 19, il y a aussi cette mention de mauvaises œuvres. Donc on comprend que les mauvaises œuvres sont, par définition, des œuvres mauvaises, c'est-à-dire qui ne correspondent pas aux standards, aux exigences de Dieu. Mais il y a aussi donc ces œuvres mortes, dont il les fait mention notamment dans l'Épître aux Hébreux, et on peut lire peut-être un verset dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 14, il en fait mention aussi au chapitre 6. Donc Hébreux 9, 14, on le lit des fois au culte. « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ?» Donc les œuvres mortes, elles sont différentes, donc c'est pas des œuvres vivantes, des œuvres mortes, et des œuvres vivantes, ce sont des œuvres qui sont faites avec la vie divine. Donc les œuvres mortes, ça peut être des œuvres qui sont en apparence des bonnes œuvres, mais elles n'ont pas la vie divine comme origine, donc elles sont des œuvres mortes. Elles peuvent être en apparence très bonnes, et on s'en doute que chacun dans nos entourages, on a des gens qui sont extrêmement bienveillants, avec plein de charité envers les pauvres, etc. Mais aux yeux de Dieu, elles n'ont pas de valeur parce qu'elles ne sont pas produites par la vie divine. Elles sont mortes. Et nous sommes croyants, nous avons la vie divine comme on vient de le voir par ce lavage de régénération. Nous avons une vie divine, nous avons l'Esprit Saint et nous pouvons, et nous sommes amenés, nous sommes incités à faire des œuvres, des bonnes œuvres.
Il y a aussi une expression, verset 8, « ceux qui ont cru Dieu ». C'est important de souligner la différence entre croire en Dieu, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui sont déistes, et même le cas de Satan. Mais là, il ne s'agit pas de croire en Dieu, il s'agit de croire ce que Dieu dit. L'apôtre Paul le dit, au milieu d'une épouvantable tempête, dans le chapitre 27 des Actes, « Je crois Dieu ». Je crois Dieu. Quel moment pour dire une telle chose, alors que chacun essaye de trouver des solutions pour se sauver. Moi, je crois Dieu. Voilà, Dieu a dit des choses et je me confie en lui. Et cela, ça nous amène à notre foi. Est-ce que nous croyons vraiment Dieu? Est-ce que la parole, nous avons lu beaucoup de choses, est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que c'est un jeu intellectuel ou on croit avec quoi? Mais on croit du cœur. On croit du cœur. La foi, c'est par le cœur qu'on croit ces choses. Si votre cœur n'est pas en exercice, une foi froide, intellectuelle, c'est pas de la foi. Mais nous croyons Dieu. Alors encore un mot qu'on parle un tout petit peu de l'homme sectaire. Qu'est-ce que c'est qu'un homme sectaire? Un homme qui sépare. Nous avons peut-être de temps en temps une tendance à être sectaire en oubliant que le corps de Christ, ce n'est pas seulement les assemblées avec lesquelles nous sommes en communion. La dimension du corps de Christ dépasse bien heureusement le cadre des rassemblements. Et ne l'oublions pas. Bien sûr, il y a une séparation à laquelle nous sommes appelés, mais pas une séparation selon nos pensées, séparation selon la pensée de Dieu. Mais nous avons, même en étant séparés, à conserver ce cœur large et que ce ne soit pas simplement une expression lorsque nous rompons le pain et que nous disons en embrassant dans nos cœurs tous les croyants sur la face de la terre, mais que nous puissions le réaliser. Que nous puissions réaliser que nous sommes un seul corps et que, en particulier, le pain qui est sur la table n'est pas l'unité des assemblées, mais l'unité du corps de Christ. C'est l'unité de son corps. Nous rompons le pain comme membres du corps de Christ et non pas avec un autre titre que cela. Et nous avons besoin aujourd'hui de ne pas nous limiter et d'embrasser, mais vraiment de cœur, l'ensemble des croyants de notre région, de notre ville, mais du monde entier, nous soyons gardés de cet esprit sectaire dont il est question aussi dans les Corinthiens. Nous avons besoin d'être gardés de notre petite plate-bande en oubliant l'ampleur du corps de Christ.
J'aimerais revenir sur les bonnes œuvres. En tant que chrétien, puis cela peut être déjà fort jeune, en tant que chrétien qui aime le Seigneur, on peut faire en sorte de faire attention à ne pas faire des mauvaises œuvres. Et je vais tout faire pour ne rien faire qui est contraire. Et je peux passer beaucoup de temps et même peut-être un peu me glorifier. Oui, moi je sors pas avec les copains en boîte. Moi, je ne bois pas exagérément. Moi, je ne fais pas ça. Et on peut passer une vie à ne s'occuper que de ce qu'il ne faut pas faire. Mais les bonnes œuvres, c'est fait. Il y a ce que nous n'avons pas à faire, mais il y a ce que nous devons faire. Il y a ce qu'il faut faire, ces bonnes œuvres. Et on peut s'arrêter sur « je fais pas ce qui est négatif » et oublier de faire ce qui est positif. Si on pensait plus à ça, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, on n'aurait pas plus l'esprit d'annoncer l'Évangile, le fait de faire des choses, de venir en aide à des personnes, à des voisins, à des frères et sœurs qui ne vont pas bien pour leur proposer notre aide. C'est ça, faire des bonnes œuvres. Il n'y a pas seulement un côté, je ne fais pas les mauvaises œuvres, je fais mon maximum pour ça, parce que je veux être pur. Mais oui, mais je dois aussi m'engager, c'est ce que le Seigneur demande, c'est m'engager à faire ces bonnes œuvres. Et le Seigneur nous montrera. Alors ce qu'il y a aussi, on a parlé de ces bonnes œuvres, qu'elles viennent du Saint-Esprit. Je peux aussi passer beaucoup de temps à réfléchir, oui mais est-ce que cette bonne œuvre-là, c'est le Seigneur qui me la montre? Est-ce que cette bonne œuvre-là, c'est le Saint-Esprit qui me pousse à le faire? Et on attend. Et on attend une certitude. Et on peut attendre 1 an, 5 ans, 10 ans. On attend toujours les bonnes œuvres. Tel qu'on doit faire. Il y a un moment donné, bien-aimé, si vous n'êtes pas certain que c'est vraiment à 100% la bonne œuvre du Seigneur, laissez votre cœur vous parler. Est-ce que votre cœur est engagé pour le Seigneur? Eh bien, par amour, faites-le. Faites-le pour le Seigneur. Et il vous montrera alors s'il y a peut-être une autre voie à faire. Mais ce qu'attend le Seigneur, c'est qu'on s'engage. Il attend, mon fils, donne-moi ton cœur. Il attend notre cœur. On peut se tromper, mais quand le cœur est engagé pour le Seigneur, eh bien, il est d'une part quand même glorifié et il nous montrera alors le chemin. Mais n'attendons pas indéfiniment, pour un service aussi éventuellement, n'attendons pas que nous soyons, je dirais, 100%, à 100% certains. Certains ont le caractère d'être, de ne jamais être sûr d'eux-mêmes. Eh bien, quand notre cœur nous parle, quand nous le faisons de cœur pour le Seigneur, eh bien, c'est le premier pas. Et le Seigneur nous aidera ensuite. Et le Seigneur nous montrera le chemin. Mais faisons ce premier pas. Et les bonnes œuvres, nous l'avons dit, dans le monde, il y a aussi beaucoup de gens qui font des bonnes œuvres. La différence avec nous, c'est que justement nous le faisons pour le Seigneur et avec le Seigneur.
On a longuement parlé de ces bonnes œuvres qui sont bonnes et utiles aux hommes. Et puis juste après, verset un tout petit peu surprenant, en contraste, on pourrait dire, il y a des choses qui sont franchement inutiles. Et l'apôtre cite là un certain nombre de choses, des généalogies, des contestations, des disputes sur la loi. On a déjà parlé de ces faux prophètes un peu judaïsants qui peut-être amenaient des questions, des controverses, et puis plus généralement on peut dire les folles questions. Alors on pourrait dire, oh ben ça ne nous concerne pas, les disputes sur la loi, ces choses-là, puis les généalogies, je crois que j'avais entendu dire que les juifs étaient un peu spécialistes en généalogie compliquée, ils pouvaient passer des heures à analyser ces choses-là, alors nous ça ne nous concerne pas. Mais il me semble qu'on peut se rendre compte qu'il faut peu de choses pour qu'il y ait des questions, quand on repense à ce qui s'est passé ces 3 dernières années, des questions de vaccins, de pas vaccins, de réunions à distance ou non, est-ce qu'on peut suivre une réunion, est-ce que ça a posé, est-ce que coupe ou gobelet pour la scène, ça a posé énormément de questions. Je ne dis pas que ces questions n'étaient pas utiles dans chaque rassemblement parfois de se les poser. Il y avait bien des décisions à prendre. Mais dans quelle mesure parfois ça n'a pas été des folles questions? Et ça a entraîné, et il y a des endroits dans lesquels sans doute il y a peut-être encore des cicatrices qui ne sont pas bien refermées, des choses qui ont été difficiles et qui ont, passez-moi un peu l'expression, un peu pourri la vie de l'Assemblée et l'ambiance de l'Assemblée peut-être entre frères et sœurs, entre familles pendant des mois sur des questions difficiles comme celle-là. Et quand on fait le bilan, un peu plus tard, on se dit voilà, combien de temps on était occupé à ces questions liées au Covid et à toutes les tensions que ça a pu entraîner entre des frères et sœurs sur ces sujets-là. Et quand on lit là, évite les folles questions, est-ce qu'on ne peut pas se sentir un peu peut-être repris? Il y a des choses qui étaient utiles où il fallait que l'Assemblée décide certaines choses dans les manières de faire et soit conduite par le Seigneur. Mais il me semble qu'au-delà de ces décisions qu'il était nécessaire de prendre, il y a eu beaucoup de folles questions et beaucoup de discussions sans fin, dont peut-être qu'on aurait pu être un peu, parfois s'épargner un peu des difficultés, des douleurs et des ressentiments entre les frères et sœurs ensuite. Et je crois qu'on peut demander au Seigneur qu'il nous donne d'avoir beaucoup de sagesse quant à certaines choses qui sont inutiles. C'est pas la peine. On peut accepter qu'on n'a peut-être pas la même pensée sur des questions de santé ou autres. Je pense à ça parce que ça nous a beaucoup occupés. Mais voilà, mon frère a cette pensée-là. J'ai une pensée différente. Que chacun éprouve ce qui est agréable au Seigneur pour soi-même et chercher à convaincre son frère ou sa sœur du bien fondé de sa position. Comme ça, ça a été tellement fait. Ça a fait certainement beaucoup de mal et en tout cas beaucoup de temps perdu par rapport à des choses qui, elles, sont utiles et bonnes.
Il faut apprendre et réapprendre à tenir devant le Seigneur. Pas quelque chose que l'on a appris une fois pour toutes, qui vient d'être rappelé, c'est bien la vérité, quant à notre propre état. Apprenons à nous tenir devant le Seigneur, apprenons à nous confier en lui. On n'a pas appris cette chose-là une fois pour toutes. Pour revenir à la croix, il me semble qu'au début de ces entretiens, hier je crois, on a dit, un frère a été amené à dire de la part du Seigneur qu'il fallait revenir souvent à la croix. La croix, c'est la fin de l'homme. Mais pour le chrétien, c'est là que tout commence. L'homme est mis de côté, Christ est tout. Et quand l'œil est simple, il n'y a pas tant de questions qui se posent, même parmi les enfants de Dieu. Si l'œil est simple, le corps tout entier sera plein de lumière, il y a de la paix entre nous. Aimez la paix et la vérité. Jugez selon la vérité, prononcez un jugement de paix. Poursuivons les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle. Que chacun d'entre nous et nos enfants, je pensais à cette expression, permettez qu'on dise un petit mot pour les enfants au sujet de ceux que nous avons à nous appliquer. Un enfant sait très bien, les parents le lui ont dit, si sur son cahier il écrit mal, papa ou maman va lui dire, mais applique-toi, regarde, applique-toi. Alors un enfant tout petit, il a besoin du Seigneur Jésus, pour s'appliquer à bien écrire et tant de choses pour nous dans le chemin. Appliquons-nous une application. Mais vous savez, chacun le sait, on l'apprend, on le réapprend, on a entendu. Le Seigneur nous le dit, il nous le répète, il faudra qu'il nous le répète jusqu'à ce qu'il vienne. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire.
dit aussi que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Priez afin que vous n'entriez pas en tentation.
Je voudrais juste revenir sur un ce verset qui dit « rejette l'homme sectaire ». Je ne suis pas sûr que ce soit seulement quelqu'un qui pense qu'on a absolument raison. Un sectaire, c'est quelqu'un qui va se servir d'une communauté pour se cacher. Et peut-être qu'il faut se méfier de ceux qui n'ont pas la vie, qui agissent pas selon l'amour de Dieu, mais qui se cachent. Je ne dis pas qu'il y en a pas ici parmi nous, je ne dirais personne, mais je veux dire, ils disent bien de rejeter les sectaires. Il ne faut pas fermer les yeux. Il y a des attitudes qui doivent être vues, des choses qui doivent être vues, auxquelles l'Assemblée n'a pas à juger. Ils rejettent les sectaires. Tout ce que je dis. C'est pas très gai, hein, désolé.
Je vais lire un verset dans Actes chapitre 20. C'est l'apôtre qui parle. Au verset 29, il dit, moi je sais qu'après mon départ, se lèvera, il entrera parmi vous des loups redoutables, ils n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera contre vous-même des hommes qui annonceront des doctrines perverses, pour attirer les disciples après eux. Ce que je voudrais souligner ici, c'est ce que nous avons à la fin, pour attirer les disciples après eux. L'homme sectaire, c'est celui qui crée les divisions. La part de l'enfant de Dieu, c'est de tout ramener au Seigneur Jésus, de rassembler autour du bon berger, du chef de notre foi. Et tout ce qui tend à nous éloigner de cela, nous devons absolument éviter et dire non. Très clairement. Je dis bien très clairement. Le chef de l'Assemblée, c'est le Seigneur. Il se l'est acquise. L'Assemblée lui appartient. Et nous devons faire attention à ce que... Et on l'a d'ailleurs dit durant ces deux journées. Le seul enseignement, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il concède. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il nous propose, c'est-à-dire l'espérance que nous avons. Je reviendrai. Il laisse pas ça à quelqu'un d'autre. Nous voyons la place qu'il occupe. Et nous devons tenir ferme sa personne. Et que rien d'autre au milieu de nous ne tende, je dis bien, ne tende à nous écarter de sa personne. Nous devons, le sectarisme n'a pas à se montrer dans tout. Nous devons le rejeter. Que nous rassemblons autour du chef de notre foi.
Peut-être dire juste quelques mots du tout dernier paragraphe qui est, se comprend très bien. Il y a des exhortes, comme souvent à la fin de ces épîtres, il y a des salutations, il y a des informations d'ordre pratique. Hein, c'est une lettre qui donnait des informations. Et il y a encore quelque chose qui est, c'est beau de voir que même dans ces choses très pratiques qui se terminent, finalement, il y a un lien avec tout ce qui a été présenté avant. Donc, Paul informe Tite qu'il va bientôt envoyer Artémas auprès de lui en Crète. Je ne crois pas qu'on sache qui est cet Artémas et qu'il en soit parlé ailleurs. Mais voilà un frère qui était certainement au service du Seigneur et qui est mentionné dans la parole de Dieu, ou Tichique, dont il est parlé dans d'autres épîtres. Et ensuite, Paul lui dit donc, empresse-toi de venir auprès de moi à Nicopolis, parce que Paul avait fait ce projet donc de passer l'hiver là. Et puis, il y a cette recommandation qui est là encore, accompagne avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos. Zénas aussi, je ne crois pas qu'il en soit parlé, sauf erreur encore une fois. Apollos, par contre, il est parlé d'Apollos dans d'autres passages. C'était un serviteur de Dieu aussi, qui sans doute visitait les assemblées, afin que rien ne leur manque. Et voilà, d'une certaine façon, une mise en pratique toute simple, tellement claire, tellement facile, même un enfant de 5 ans peut comprendre. Hein. Ils avaient besoin d'aide afin que les nôtres aussi apprennent à être les premiers dans les bonnes œuvres pour les choses nécessaires, comme s'il y avait peut-être différents types de bonnes œuvres, et il ne fallait pas peut-être s'arrêter qu'à des bonnes œuvres d'ordre très spirituel. Il y avait des choses très matérielles, là, très concrètes. Il est parlé dans d'autres passages de faire la conduite à de tels hommes. Il me semble que c'est un peu cette même pensée. Ils avaient besoin d'aide, peut-être, pour le voyage. Ils avaient besoin d'un hébergement, d'un logement quand ils passaient. Ils avaient besoin qu'on prévoie de la nourriture pour leur voyage. Il y avait besoin de choses très pratiques, très concrètes comme ça. Eh bien, voilà des serviteurs de Dieu qui vont voyager, qui vont avoir besoin d'assistance. Eh bien, voilà une bonne œuvre, toute simple, toute pratique, toute à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un don spirituel pour pouvoir venir en aide de manière très pratique à des serviteurs de Dieu, quels qu'ils soient, quelle que soit la situation. Et là, voilà cette recommandation qui est faite à Tite, et par là, afin que les nôtres aussi apprennent à être les premiers. C'est-à-dire, les chrétiens de Crète, voilà comment, une façon parmi tant d'autres, sans doute, certainement, une façon de mettre en pratique ces exhortations de cette épître, c'est ça. Zénas et Apollos vont passer bientôt. Ce serait quand même dommage qu'ils se retrouvent sans avoir l'aide dont ils auraient besoin pour accomplir leur service. Alors commencez par là. Occupez-vous d'Apollos et Zénas. Surtout, n'oubliez pas ce tout premier petit service qui est là, placé devant vous. Et nous, ça nous encourage aussi à voir les choses simplement qui sont placées devant nous et à marcher dans ces œuvres préparées à l'avance pour les choses nécessaires, afin qu'ils ne soient pas sans fruit. C'est triste de dire qu'un chrétien est sans fruit. Voilà, il a la vie, là on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit, mais c'est triste de dire que quelqu'un est sans fruit. Et bien voilà, là c'était aider Apollos et Zénas dans leur voyage missionnaire pour les choses nécessaires dont ils avaient besoin. C'était un fruit. C'était un fruit de la vie chrétienne, c'était un fruit de l'esprit, de la vie de Christ manifestée dans ces croyants de Crète. Ils mettaient en pratique et un encouragement pour nous à les imiter, à imiter ce que ces croyants de Crète ont fait certainement pour Apollos et Zénas ce jour-là. Et puis ensuite, cette salutation finale, tous ceux qui sont avec moi te saluent, salue ceux qui nous aiment dans la foi, que la grâce soit avec nous tous.
Alors là, on voit aussi, dans ce qui vient d'être dit, des bonnes œuvres, concrètement, ce que c'est. Pour faire des bonnes œuvres, il n'y a pas besoin de connaître la parole de A à Z. C'est une très bonne chose. Et il faudrait la connaître de A à Z. Mais là, que les nôtres aussi apprennent à être les premiers. Apprendre à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on apprend. On vient de dire les petites choses nécessaires. 2 Timothée 4, dans les salutations aussi, il y a deux fois un empresse-toi comme on le voit ici. Au verset 9, empresse-toi de venir bientôt auprès de moi. Et verset 21, empresse-toi de venir avant l'hiver. Quoi ? Juste parce que j'ai envie de te voir ? Non, il y avait des choses à faire, et même pas pour évangéliser, mais ça c'est logique, dans le chemin, on va parler de celui qui est notre sauveur. Mais juste, verset 13 de Timothée 4, quand tu viendras, apporte le manteau. Porte le manteau, mais c'est banal, je ne vais pas faire ça, je suis un frère du premier rang. Qu'est-ce que je vais faire à apporter un un manteau. Il aurait pu lui dire, mais pff, ça va pas. Non, en amenant ce manteau, peut-être tu passeras par une prison, peut-être tu passeras par, je ne sais pas quel est le chemin que le Seigneur te fera faire pour arriver à m'apporter ce manteau. Mais ça, c'est une bonne œuvre. Et peut-être le Seigneur y posera, devant vous, chacun de vous, une bonne œuvre, un verre d'eau à donner. Juste, simplement, c'est aussi une bonne œuvre. On a souvent dit, parfois nos frères âgés dans notre localité ont besoin de couper le bois pour se chauffer l'hiver. Oui, il y a des bonnes œuvres à faire là. On vient de dire, il y a peut-être des choses à faire pour un frère qui va partir. Là, c'est pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et on lui demande, viens m'apporter des choses. Des bonnes œuvres, il y en a tout le temps. Il suffit d'ouvrir les yeux. Mais pas seulement les yeux. Parce que ça ne suffit pas d'ouvrir les yeux et voir qu'il y a des besoins. Il faut ouvrir le cœur.